j'étais là aujourd'hui. On va faire une brève démonstration pour que vous puissiez voir quelques-uns des composants principaux de l'application. On était en train de faire la preuve des microphones. Merci.
If Garth Brune is in the room, could you please come to the control table, which is over here? I'm waving. If Garth Brune is in the room, please come to the table. Thank you.
and I'm
Ladies and gentlemen, our meeting will be beginning, and let's welcome Kurt Pritz, Senior Vice President, ICANN.
Thank you, and thank you for that small cadre of support. And I'm joined by Trang Nguyen, ICANN's Senior Manager of Customer Service. Are you pointing to me for a reason? So go over here. Okay. It was a much fuller room when there were fewer chairs.
Il y avait moins de chaises et on avait l'impression qu'il y avait plus de monde hein, maintenant avec tellement de chaises. Merci d'être venu encore une fois. L'objectif de cette présentation est de vous donner davantage d'informations détaillées par rapport au processus de candidature et d'évaluation pour les nouveaux GTLD. Voici la dernière présentation de ce genre avant la réunion au Costa Rica. Parce que depuis maintenant jusqu'au Costa Rica, on sera au milieu de la période de candidature, la fenêtre de présentation des candidatures. Tel que je l'ai signalé, vous verrez les documents qu'il faut présenter pour le processus de candidature et d'évaluation. Nous allons voir une vidéo du système d'application de candidature pour les TLD. On va diviser cette présentation. Ma collègue est à la charge de la présentation de certains aspects de la candidature et moi-même, je vais faire des interventions quand elle fait sa description. Puis on va voir une vidéo et je vais décrire plus tard certains aspects de l'évaluation. Trang, voilà, officiellement, je te donne la parole. Qui peut demander un nouveau GTLD? Le programme des nouveaux GTLD est ouvert pour des organismes, des institutions et des sociétés du monde entier Voici un engagement très sérieux pour l'opération de la part visible des infrastructures Internet. Nous avons donc beaucoup d'exigences d'éligibilité. Trang, je te rappelle que nous avons des difficultés avec la transcription, avec l'interprétation simultanée, parce que tu parles trop vite. Merci. Les personnes et les sociétés individuelles ne peuvent pas présenter leur candidature, ainsi que les entités qui pensent former des sociétés dans l'avenir. Nous allons faire une enquête d'antécédents de toutes les entités candidates et de tous les actionnaires et membres du conseil de ces organisations. Le tarif de la candidature est de 185 000 $ qu'il faut payer à l'ICANN et toutes les règles sont contenues dans le guide de candidature. Il y a certains TLD qui sont inclus dans le guide de candidature. Il y a les TLD des communautés qui représentent justement une communauté. Les TLD géographiques sont ceux qui représentent une ville ou une région. Les noms de domaines internationalisés ou TLD avec IDN sont ceux décrits en caractères qui n'appartiennent pas au code ASCII. Et pour les TLD, il y a des règles et des exigences spécifiques pour chaque catégorie, en plus des règles pour les TLD standards. Nous allons voir la question plus spécifique. Par exemple, on va voir les TLD basés sur la communauté. Voici ce qui fonctionne au profit d'une communauté définie dans le TLD. Par exemple, une candidature pour un TLD basé sur la communauté doit démontrer en premier lieu un rapport avec la communauté clairement identifiée. Deuxièmement, la chaîne de caractères doit avoir trait à la communauté mentionnée dans l'application et la candidature doit proposer des enregistrements spécifiques et des utilisations spécifiques également. Et pour finir, les candidatures doivent avoir le soutien d'une institution au plus établie représentant la communauté et qui soit nommée dans la candidature. Au cas où l'on demandait un TLD par la même communauté et si la candidature basée sur la communauté peut alors passer à une évaluation prioritaire de la part de la communauté pour obtenir une priorité quant à l'obtention de ce TLD controversé. Dès que ce TLD est délégué à la racine, il va falloir opérer dans les restrictions de l'accord de bureau d'enregistrement de l'ICANN. Kurt n'a pas le micro. En ce moment, il a déjà son micro. C'est le seul moment du processus d'évaluation où la désignation de la communauté joue un rôle, c'est-à-dire lorsqu'il y a un litige à cause d'une chaîne de caractères. Pour Trang dit, pour ce qui est des GTLD géographiques, ce sont ceux qui représentent une ville ou région. Ces candidatures doivent considérer l'intérêt des gouvernements. Si vous demandez un nom géographique d'une ville capitale et le nom d'une ville ayant besoin de certaines exigences, ou si vous présentez votre candidature d'un comté, d'un État ou d'une province, ou si par exemple il s'agit d'une région de l'UNESCO, alors là, cette candidature doit inclure la documentation exiger ou ne pas avoir d'objection sur des gouvernements pertinents. Il est important de voir que les noms de pays ne sont pas disponibles dans le programme de GTLD. Lorsque le panel d'évaluation des noms géographiques considère la candidature, il verra la chaîne de caractères contre la liste des ISO et des Nations Unies. Il est important également de signaler que ce panel fera l'évaluation de toutes les candidatures, non seulement de celles auto-désigné comme géographique, mais de toutes les candidatures. Si on voit que la candidature n'étant pas classée comme candidature non géographique demande un territoire, pays ou région, elle sera évaluée comme candidature de non géographique. En ce qui concerne les IDN, c'est les TLD qui sont écrits en caractères qui n'appartiennent pas au code ASCII. Dans la section 3.1.3 du guide de candidature, il y a l'explication des TLD avec IDN parce que ils doivent respecter des protocoles qui figurent dans le guide de candidature pour les IDN. Là, nous voyons que tous les TLD avec IDN sont dans la racine. Kurt dit, je crois que le conseil d'administration considère l'approbation de ces IDN-là et des exigences concernant les IDN. Trang continue. La présentation de la candidature va être ouverte le 12 janvier, du 12 janvier au 12 avril 2012. Il y a donc 3 mois de délai pour la présentation. Il y a des démarches à suivre pour la présentation de la candidature. De toute manière, nous allons clôturer la période d'évaluation le 29 mars. 2012. Ceci pour permettre le temps suffisant pour que les candidatures soient complétées avant la fenêtre de présentation. Tout le processus des candidatures va être géré par le système de candidature des TLD ou TAD qui sera disponible dans le site web des nouveaux GTLD lors de l'ouverture de la période de présentation de candidature et pas avant. Cette date, c'est le 12 janvier, souvenez-vous. Là, vous pourrez accéder au système de présentation de candidature pas avant cette date. Nous allons vous présenter une vidéo de ce système. Avant ça, je vais vous dire que le système TAS va vous indiquer le moment où vous devrez compléter un certain profil. On va vous indiquer également quand est-ce que vous devez faire le dépôt, par exemple. Si le panel d'évaluation a des questions à poser par rapport à votre candidature, le TAS vous le signalera également. Et ce système vous indiquera aussi la date butoir pour répondre à ces questions de clarification. Donc, on va vous guider tout le long du processus de présentation de candidature. Ici, vous pouvez observer le processus de candidature. Il est clair que tout d'abord, il faut s'enregistrer au TAS dès que vous aurez complété le profil d'utilisateur. Alors là, vous demandez un slot ou un espace de candidature. Là, vous devez payer le dépôt ou le paiement initial. À partir de là, l'ICANN va vérifier l'information d'utilisateur et le paiement. Et dès que vous aurez l'espace de candidature, vous pourrez commencer à répondre aux questions. Le système va vous permettre de télécharger des fichiers joints. Et dès que vous aurez répondu à toutes les questions, vous pourrez payer le solde de ces 185 000 $ lors de la clôture du délai d'application le 12 avril. La phase d'évaluation va démarrer cette phase. C'est Kurt qui va vous les décrire. Je veux maintenant vous montrer une vidéo du système TAS pour présenter les candidatures. Pour ceux qui ont téléchargé la version démo du TAS, je dois vous dire que cette version-là, que ce vidéo, pardon, est une version démo, mais il y a aussi la voix de Ross qui décrit les étapes ou les démarches à suivre dans la vidéo. Nous voyons la vidéo maintenant. Je vais vous parler sur le TAS, le système pour présenter les candidatures au TLD. On va vous montrer certains composants de la candidature. Vous pouvez voir sur l'écran les 4 composants de la démonstration enregistrés dans le système. Vous avez là un profil de candidature, puis vous demandez votre candidature et finalement vous complétez et vous présentez. Aux effets de la présentation, je vais vous montrer les trois dernières étapes ou démarches. Complétez le profil, présentez la candidature et vérifiez la candidature. Le TAS fonctionne comme suit. Vous devez compléter tout en ordre. Tout d'abord, vous complétez le profil, puis après, vous répondez de la question 1 à 11 du guide de candidature. Je vais vous le montrer tout de suite. Maintenant, on va voir la page d'accueil. Dans la page d'accueil, on va travailler toujours sur cette page le long du processus. Vous avez les démarches à suivre. Par exemple, ici, vous devez compléter votre profil. Dès que vous complétez votre profil, vous pouvez démarrer avec la candidature. Et en dernier ressort, vous verrez toutes les candidatures actives sur une liste. Ça, on va le voir après. On complète donc le profil. On est sur la première page, l'information de contact. On a un contact principal et un contact secondaire. Après la présentation de l'information de contact, on doit mettre le nom de l'entité. Ce sera l'entité qui, en dernière instance, va interagir avec l'accord d'enregistrement de l'ICANN, qui va passer l'accord de registre avec l'ICANN. Nous allons voir la section dans laquelle le candidat saisit toute l'information des actionnaires, des directeurs, etc., c'est-à-dire toutes les personnes qui sont en rapport avec l'entité qui présente la candidature. Dès que tout cela sera rempli, on va répondre à la question 11E de la question 11E à la question H et y entrer à des questions liées à ces individus. Nous allons voir également qui est le responsable de payer la somme initiale ou dépôt et qui est la personne chargée de payer le tarif de la candidature. Maintenant, nous allons voir les questions 8, 9 et 10 du guide de candidature. Vous n'allez pas pouvoir avancer jusqu'à ce que vous aurez complété tous ces champs-là. Pour finir, vous avez l'écran de confirmation de l'information du profil d'utilisateur ou du candidat. Vous devez contrôler que toute cette information soit correcte parce qu'elle sera utilisée dans notre processus de révision. Dès que vous l'aurez présentée, vous ne pourrez pas la changer. Donc, vérifiez soigneusement. Maintenant, nous pouvons commencer la prochaine candidature. Vous devez manifester votre accord avec les termes et conditions qui régissent chaque candidature. Ça, vous pouvez le voir au module 6 du guide de candidature. Vous cochez chaque item, puis après vous vérifiez que ceci soit effectivement votre profil ainsi que les termes et conditions. Nous revenons donc à la page d'accueil et je vais vous montrer la manière de compléter la candidature. Voici la prochaine tâche qui est la plus importante. Vous devez remplir votre fiche de candidature à gauche. En bas à gauche de l'écran, vous voyez toutes les questions que vous devez répondre, la question 13 à la question 50 du guide de candidature. Et à chaque fois que vous répondez, vous cliquez sur le lien qui correspond à chacune des questions. Voici un exemple de la manière de répondre aux questions. On va voir les questions 13 à 17 qui ont trait à la chaîne de caractère. Comme vous pouvez voir ici, vous pouvez indiquer si vous demander des IDN ou pas. Si oui, vous cliquez sur ce bouton et vous avez un écran qui vous permet d'avoir plus d'informations. Il y a beaucoup d'instances dans la candidature où il faut joindre des documentations différentes. Ici, à la question 15, on nous demande de joindre des documents. Des questions 22 à la question 50, il y a beaucoup d'informations. On ne va pas les voir toutes, je vais tout simplement vous donner un exemple pour que vous voyez la manière de répondre. La seule différence, c'est que la question varie et par conséquent, la question varie. Vous faites clic ici, vous avez un champ pour saisir l'information. Ici, vous n'avez pas besoin de joindre aucun document. Des questions 22 à la question 50, à chaque fois qu'il sera nécessaire de joindre des documents, vous pourrez le voir sur le champ jaune. On fait clic là. À Manage Attachment, le bouton qui est en bas à gauche de la page, et Lorsque vous entrerez dans l'information, vous ferez le clic et cela vous amène à la partie principale de la candidature et vous continuez à compléter votre candidature. Vous avez donc vu comment faire le profil de l'utilisateur, le profil du candidat, comment remplir une nouvelle candidature et aussi vous pouvez voir la manière de effectuer le paiement initial, comment compléter toute la candidature. Merci de votre attention. J'espère bien que cette vidéo vous aura été utile. Kurt prend la parole. Merci, Rob.
J'espère que ceci vous aura été utile. Et nous allons maintenant passer au processus d'évaluation de candidats. Et puis, à la fin de la présentation, nous allons répondre à vos questions sur ces deux aspects de la candidature. Le processus d'évaluation, comme vous savez, trace ou alors est connecté avec le guide de candidature. Je pense qu'il s'agit ici de l'une des images les plus vieilles que nous avons sur le nouveau programme des GTLD. Parce que le graphique qu'on voit ici sur la diapo est celui qu'on a publié à ce moment-là où on l'a présenté. L'idée est de continuer avec le plan original vis-à-vis l'évaluation de la candidature. Le module 1 est une idée générale du processus, c'est-à-dire qui peut le demander, qui est un candidat, et on l'a décrit comme la première partie de la présentation. Le module 2 est la partie la plus importante du guide parce qu'il décrit et il fait une liste des réponses que vous devriez fournir et qui ont lien avec les critères que l'on va prendre en compte. Après cela, on a tout le processus d'évaluation qui est très complexe. Tous les candidats vont traverser une évaluation initiale, mais certains d'entre eux ne vont passer que cette évaluation. La plupart des candidatures vont être très directes. On n'aura pas des problèmes et donc elles vont être transmises à la délégation directement. C'est cette partie de transition initiale qui est incluse dans le guide de candidature qui va être la plus importante pour vous. C'est ce que vous devrez considérer le plus. Cependant, certaines questions vont être soumises à plus d'interrogations. Il s'agit ici des candidatures qui ne supportent pas et qui ne passent pas la première étape de la candidature. Donc, vous allez devoir fournir plus d'informations dans votre candidature. Ce n'est pas que la candidature va changer, mais que vous allez pouvoir compléter les domaines pour lesquels les évaluateurs n'étaient pas sûrs que cette évaluation pourrait être bien qualifiée pour la première étape. C'est pour cela que vous aurez donc l'occasion de fournir davantage d'informations et ceci n'aura pas d'autres coûts par rapport au paiement initial que vous aurez fait. On a après une deuxième étape et les candidatures peuvent être rejetées entre 104 raisons. On a 104 raisons pour les rejeter. Tout ceci est inclus dans le guide de candidature. Et ceci nous mène à un processus de résolution de différends ou litiges. Ceci va être fait indépendamment et ce sera indépendant de la résolution du conflit parce que l'évaluateur, qui sera indépendant, va prendre la candidature et selon les critères établis, il va décider si on peut continuer avec la candidature ou pas. Le module numéro 4 décrit le processus de contention des chaînes de caractères. Au cas où les chaînes de caractères soient semblables ou qu'il puisse y avoir des confusions, ceci sera fait. On a décidé en tant que communauté que ceci ne sera pas délégué. Et comme je viens de dire, ceci est inclus dans le module numéro 4 du guide de candidature. On espère, comme j'ai déjà dit, que la plupart des candidatures ne seront pas controversées. Ce sera une affaire simple qui va être adoptée après l'étape initiale des candidatures. Et nous espérons avoir des candidatures présentées par des personnes compétentes. Alors, celles-ci vont seulement traverser l'étape initiale et puis on aura une transition jusqu'à la délégation. À ce moment, on formalise un contrat avec l'ICANN où on doit montrer que l'on a respecté les registres, on prend les premières mesures et puis on passe directement à la zone racine. Voyons ici une description simple du chronogramme de la période de candidature qui finit en avril 2012, le 12 avril 2012. Donc, on a la première étape pour présenter les candidatures. On va les traiter jusqu'à novembre 2012. Je vais vous expliquer pourquoi ce processus est tellement long plus tard. Et donc, les candidatures vont être transmises à la délégation. Nous espérons que la première transition se fasse en début 2013, c'est-à-dire soit fin 2012, soit début 2013. Et à partir de ceci, on fera toutes les délégations. Alors, l'évaluation simple, nous espérons, suivra la route qui est montré sur l'écran à partir du 12 avril. Le 12 mai, plutôt. Ce sera à partir de ce moment qu'on publiera les candidatures et nous prendrons après cela 2 semaines des vérifications administratives, des questions et réponses. C'est-à-dire que ceci est un processus un peu plus long de ce qu'il devrait l'être, mais lorsqu'on a traité ce sujet, on s'est mis d'accord au sujet du comité consultatif de l'ICANN qui devrait avoir le temps de traiter les candidatures et d'évaluer s'il pouvait émettre une alerte précoce ou pas. C'est pour ceci que ce processus va prendre 2 mois. À la fin de cette période, on a l'étape d'évaluation initiale qui commence. Et selon nos attentes, nous espérons recevoir 500 candidatures et on prendra donc 5 mois pour traiter tout cela. À la fin de cette période, nous transmettrons les candidatures à la délégation. Mais ceci va dépendre du rythme auquel on puisse finir avec les formalités du contrat et avec la façon d'opérer du contrat, des termes de négociation des registres. Et une fois que les vérifications préliminaires avant la délégation aient été finies. On va maintenant passer à un autre sujet. Et puisqu'on a déjà établi ce programme initial, on va traiter les différentes routes que les candidatures peuvent suivre qui ont rapport aux difficultés qui puissent donc surgir. En début, nous avons la candidature élargie. C'est-à-dire que si une candidature ne dépasse pas la première étape, on peut lui demander davantage d'informations, donc une candidature élargie, et ceci prendra 5 mois. C'est comme les mêmes critères d'évaluation, mais la candidature pourra alors fournir davantage d'informations. Le plus important ici, comme Trang a dit, est que le TAS va donner une alerte au candidat pour lui dire qu'il n'y a pas eu l'approbation lors de l'étape initiale. Et le candidat aura alors 2 semaines pour compléter cette candidature. Quelles sont les différentes étapes que les candidatures vont suivre le long du processus? Ceci sera établi et tous les candidats auront 7 occasions de réviser la séquence de la chaîne de caractères et voir quelle est l'étiquette du TLD et pour évaluer qui est le candidat. Si on a une chaîne de caractères confuse qui est trop similaire à une qui existe déjà ou alors que la candidature pourrait nous confondre, en ce cas-là, on ne pourrait pas déléguer les 2 chaînes en même temps. Ceci est inclus dans le guide, bien sûr. Si cette chaîne est un nom déjà réservé, il ne peut pas être délégué. Ou alors, si cette chaîne essaie d'en finir avec le DNS, il y aura aussi des critères très clairs dans le guide que vous pourriez lire pour savoir ce qui va se passer. On a aussi la possibilité d'avoir un panel technique qui fasse la révision de cette chaîne de caractères pour ne pas avoir des résultats inattendus à la fin de la séquence. Finalement, nous avons les télés géographiques. C'est-à-dire que si cette chaîne de caractères représente un nom géographique ou d'un pays, il faudrait voir ce que le gouvernement pertinent dit, c'est-à-dire s'ils acceptent ou alors si dans la candidature on inclut un document de non-objection de la part du gouvernement, il n'y aura aucun problème. Comment est-ce qu'on évalue alors le candidat? Tout ceci doit être très bien documenté, en fait il l'est. On évalue le candidat de trois façons. D'un côté, on a les capacités opérationnelles, techniques et financières pour opérer avec les bureaux d'enregistrement tels qu'on le définit dans le guide de candidature. Finalement, s'il propose des services de bureaux d'enregistrement qui pourraient générer des problèmes avec la stabilité des DNS ou la sécurité, et si ceci présenterait des problèmes de concurrence. Alors, on vérifie les services de bureaux d'enregistrement pour voir s'ils vont leur fournir ce service tel qu'ils le disent. Aujourd'hui, on a un processus très similaire appelé RSEP, c'est-à-dire l'évaluation des services des bureaux d'enregistrement et le processus d'évaluation de ces services. Et on doit voir si les bureaux d'enregistrement peuvent être d'accord à fournir les différents services. Alors, on fait l'évaluation de ces services pour voir s'ils peuvent ou pas y avoir des raisons de sécurité ou de stabilité ou de concurrence pour ne pas les accepter. À certaines étapes, on peut avoir une interaction entre le candidat et l'évaluateur. Pour le processus d'évaluation initiale et d'évaluation élargie, s'il y avait des questions de la part des évaluateurs, ils vont contacter le candidat et ils vont lui poser des questions pour clarifier. Un exemple particulier de ceci est le cas où on a eu des commentaires au sujet d'une candidature et si ces commentaires feraient que l'évaluateur remette en question la qualification d'une question particulière ou peut-être qu'il changera sa qualification. Alors, lorsqu'il y a un commentaire public qui a une influence, l'évaluateur va pouvoir répondre à ces commentaires et ceci est important. On a un autre chemin que les candidatures peuvent suivre, c'est l'objection et la résolution de litiges. Ceci est inclus dans le module numéro 3. La chaîne de caractères, on va dire, est tellement confuse qu'elle est trop semblable à une chaîne préexistante et peut-être un utilisateur pourrait dire qu'il ne veut pas cela et il ne l'accepte pas. On a aussi une objection des droits juridiques. Et donc, si une chaîne ne respecte pas les droits des autres, ceci a été identifié comme un mécanisme de protection des droits pour que le propriétaire d'une marque puisse présenter son objection par rapport à une chaîne de caractères. Les standards par lesquels on va faire cette objection sont inclus dans le guide. On appuie des objections d'intérêt public limitées parce qu'ils peuvent ne pas respecter des principes de la loi internationale, ce qui est dans le guide. Et finalement, une communauté préexistante pourrait présenter une objection à un tel et parce que ceci prend le nom de la communauté. C'est un abus ou une usurpation. Récemment, le GAC a fourni son conseil au conseil d'administration de l'ICANN et aux candidats par rapport à ce qui porte sur les lois et la culture locale. Ceci constituera une objection aussi. Le long du processus d'évaluation initiale, il y aura une période pour présenter des objections. Cette période prendra 7 mois. Ce n'est pas très bien représenté ici sur l'écran, mais cette période finira 2 semaines avant la fin de l'évaluation initiale, ce qui nous donnera le potentiel de voir si la candidature peut être acceptée ou pas. Alors, les candidats et les objectifs ne vont pas débourser de l'argent sans savoir comment l'évaluation initiale est faite. On va alors résoudre ce litige en 5 mois
à travers les personnes ou les organismes que l'ICANN désigne comme organismes indépendants et comme évaluateurs indépendants. Je voudrais aussi dire quant aux fournisseurs de services qui peuvent présenter eux-mêmes les quatre raisons de l'objection. Le candidat, alors, peut émettre une réponse à cette objection et puis le fournisseur de résolution indépendant va donner son avis et on formera un panel d'experts qui donnera son avis en même temps. C'est ici qu'on va décider si la candidature continue ou pas. Comme j'ai déjà dit, les gouvernements aussi ont un rôle ici, soit par eux-mêmes, soit à travers le GAC. On aura une période de commentaires qui seront publiés par rapport à chacune des candidatures présentées. Donc, vous pouvez voir qu'à partir du 12 avril, on commencera avec les vérifications administratives et le 1er mai, on publiera les candidatures. Ceci est aussi ouvre la période de commentaires à cette date. Le GAC peut aussi présenter une alerte précoce. Et je ne sais pas si je parle plus de ceci à partir d'une autre diapo. Le GAC aussi peut émettre une alerte précoce qui dise qu'un gouvernement ou plus pourrait remettre en question la chaîne de caractères due à des questions sensibles. Alors, le GAC va émettre une alerte précoce au candidat en ce cas-là. Ceci ne va pas affecter directement la candidature, mais ça fera savoir que ceci se passe au candidat. En ce cas-là, nous prions instamment au candidat pour travailler avec le gouvernement pour résoudre la différence parce qu'il pourrait s'agir d'une différence géographique qu'un autre gouvernement veut demander ou alors parce qu'ils veulent annuler l'alerte, la candidature qu'ils ont présentée à partir d'une alerte précoce. En ce cas-là, on aura un remboursement si la candidature est retirée à cause d'une alerte précoce du GAC. En même temps, il pourrait y avoir un conseil du GAC fourni au conseil d'administration de l'ICANN. Et pendant cette période de 7 mois pour présenter des objections, le GAC pourrait dire qu'un tel délai ne devrait pas être délégué ou alors fournir son avis pour qu'il ne soit pas accepté comme candidature. Et ceci, donc, conseillera le conseil d'administration du GAC à travers un consensus pour dire qu'une candidature ne doit pas être acceptée. Le conseil sera considéré par le conseil d'administration, mais ce n'est qu'un conseil. Ceci est très clairement établi dans les statuts de l'ICANN. Donc, si le conseil d'administration n'est pas d'accord avec l'avis du GAC, elle devra expliquer pourquoi elle n'est pas d'accord avec l'avis du GAC. On verra maintenant donc comment les chaînes de caractères sont contenues pour voir si elles peuvent être déléguées ou pas.
Lorsqu'il y a un litige lors de l'étape d'évaluation initiale ou après, alors, pendant l'évaluation initiale, les différentes entités peuvent négocier entre elles pour résoudre les différences entre elles. Et à tout moment, les candidats peuvent négocier pour résoudre finalement ces différences. Mais s'ils ne font pas cela, il y a d'autres manières de le faire et le litige sur la séquence de caractère peut être résolu autrement. À partir de l'évaluation de priorité de la communauté, l'ICANN peut dire que les TLD d'une communauté vont avoir la priorité s'il y avait un litige sur la séquence des caractères. Ceci est bien défini dans le guide de candidature, mais les candidats basés sur la communauté qui doivent s'identifier ont la priorité de l'évaluation selon le guide du candidat. Les candidatures de communauté ayant approuvé cette évaluation de priorité reçoivent cette préférence. Donc, s'il existait un litige, cette candidature qui représente la communauté va obtenir le TLD. Le TLD basé sur la communauté devra payer le dépôt initial et si elle gagnait le litige, ce dépôt lui sera remboursé. Il y a certains critères qui sont décrits dans le guide de candidature et on décrit là aussi les scores ou les points à obtenir.
La communauté doit être bien élue. Il n'est pas nécessaire que ce soit une grande ville, mais il y a un lien entre la communauté et la chaîne de caractère demandée qui doit rester bien démontrée. Par exemple, si l'on parle des scouts des États-Unis, ils sont bien plus liés avec la séquence point Boy Scout que d'une autre communauté. Il y a un lien qui montre que cette chaîne de caractère vous appartient. Eh bien, vous allez obtenir votre candidature sera approuvée. Il y a aussi le registre restreint pour cette communauté. Vous allez voir que la communauté soutient la chaîne de caractère que vous demander. Voici donc les exigences de l'évaluation prioritaire de la communauté. Les parties peuvent arriver à un accord pour résoudre le litige. Et la dernière procédure, c'est de faire des enchères. C'est la dernière ressource, de faire une vente aux enchères. Si les controverses ou les litiges sont résolus après l'évaluation, on a un temps de transition de la délégation de 2 mois à 6 mois. Il est nécessaire d'avoir une prédélégation et il aura fallu avoir signé un accord avec l'ICANN. Les contrats seront traités rapidement et tous ceux ayant des variations ou des déviations vont faire l'objet d'une négociation et cela prendra plus de temps pour leur approbation. Ici, vous avez des dates clés. Je crois que je les ai déjà mentionnées. Vous avez la fenêtre de la présentation de candidature du 12 janvier qui ouvre le 12 janvier 2012 pour le 29 mars. On doit réserver un slot de candidature et cette fenêtre va clôturer le 12 avril. 2 ou 3 semaines plus tard, on va publier les candidatures et simultanément, on ouvrira la période de présentation de commentaires, la période d'alerte précoce et conseil du GAC et le processus d'objection. Tout cela va être lancé en même temps. Après, on va clôturer l'évaluation initiale. On ferme donc cela après 60 jours, la période pour faire des commentaires sur les candidatures. Et nous espérons bien que le 12 novembre, les résultats de l'évaluation initiale seront publiés. Tous les résultats de ces évaluations initiales seront publiés en même temps. Ceux qui ne réussiront pas à l'évaluation initiale auront comme date butoir le 29 novembre, à savoir le dernier jour de l'évaluation étendue ou élargie. Cela commencera la période d'évaluation élargie pour ceux qui n'ont pas approuvé l'évaluation initiale. Pour ceux qui ont réussi à la première évaluation, il y a l'étape de transition pour la délégation. Alors, nous voyons donc que le 30 avril 2013 sera la clôture de l'évaluation élargie ainsi que de la période de résolution de litige. Si vous devez passer par un processus d'objection, il va y avoir un procès de résolution de litige par chaîne de caractère. Voici donc les dates les plus importantes. Avec ça, nous avons vu un panorama général de tout le processus. Je vous prie de faire attention à toutes les dates, à toutes les procédures. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire à newgtld@icann.org. Il y a un groupe de personnes qui sont consacrées à répondre à toutes ces questions et s'ils ne peuvent pas les répondre, ils vont les dériver à une équipe spécifique dont je fais partie. Une fois par semaine, on se réunit pour répondre aux questions et nous nous assurons que les réponses soient dûment publiées sur le site web de l'ICANN. Il y a un site spécifique pour les nouveaux GTLD et pour la procédure de présentation de candidature. Je vous remercie de votre attention et je répondrai à vos questions avec plaisir. Bonjour, je m'appelle Robin Skill, j'appartiens au point BR. Il y a un code de conduite qui permet qu'un opérateur de registre demande une exception de ce code de conduite par rapport
au domaine, par rapport au domaine qui entrait au registre pour qu'on ne puisse pas le vendre à personne d'autre. Si cette exemption est octroyée par l'ICANN, alors ces domaines-là doivent passer à un bureau d'enregistrement accrédité par l'ICANN ou directement ils peuvent être connectés au registre. C'est Dan Halloran qui va répondre à vos questions. C'est Dan Halloran de l'ICANN qui parle. Je crois que tout registre doit passer par un bureau d'enregistrement accrédité par l'ICANN. La réponse est donc oui. On va essayer de faire notre mieux pour répondre à vos questions. C'est une très bonne question pour qu'elle soit publiée sur notre site web afin que la réponse que vous obtiendrez soit plus précise. Mais en principe, tout registre doit passer par un bureau d'enregistrement accrédité. C'est Kurt qui parle. Si Dan pouvait rester à côté du micro et s'il avait plus de temps, il vous dirait que nous faisons de notre mieux pour répondre à vos questions ici. Mais la meilleure manière de répondre, c'est par écrit à travers les consultations que nous recevons dans cette boîte email pour que les autres candidats puissent accéder à l'information. Lorsque l'on publie les questions dans la boîte de courrier électronique, on fait une synthèse de la question pour protéger l'information confidentielle pouvant être incluse dans la question. On transforme dans la question pour qu'elle soit plus générale. Je vais poser une question similaire. Pour ce qui est de l'analyse des similarités, vous avez mentionné les similitudes d'ordre visuel. Qu'avez-vous à dire par rapport à la signification? Les clients me demandent bien des fois cela. Par exemple, un mot veut dire a une signification. Et si quelqu'un... demande point, pantalon et l'autre demande un vêtement similaire au TDL. C'est Kurt qui répond. Eh bien, je peux vous répondre en partie. Pendant le processus d'évaluation, le panel évaluera la similitude visuelle. Pendant le processus d'objection, lorsque l'on peut présenter une objection contre une chaîne de caractères parce qu'elle va confondre l'utilisateur, alors là, les fondements peuvent être visuel, sonore, sémantique. Alors, la délégation des deux chaînes de caractères confond le consommateur, on peut la présenter l'objection. Voilà la différence entre les deux étapes. Carole, c'est Kerpitz qui parle. Nous voulons nous assurer que Carole puisse parler. Bonjour. J'ai une question à vous poser. Vous avez parlé du rôle du GAC. Bien qu'il existe l'opportunité de l'alerte précoce pour le GAC, vous avez également mentionné la manière dont le GAC pourrait informer les candidats de cette situation. C'est peut-être une sorte de dialogue que l'on pouvait entamer avec les candidats. Si se passe de la même manière que l'alerte précoce, Kurt répond, en travaillant avec le GAC, nous avons encouragé les alertes précoces dans le processus pour permettre aux candidats de travailler avec les gouvernements respectifs afin de diminuer les préoccupations des gouvernements. Alors, dans l'alerte précoce du GAC, il y a une voie pour que le gouvernement et le candidat puissent résoudre le problème. Je ne peux pas vous donner plus d'informations pour l'instant. Tout simplement, je peux vous dire que le GAC, on a inclus le GAC dans les membres. On parlait avec moi et ils sont très intéressés à fournir une méthodologie permettant aux candidats de corriger la situation. Ceci est développé et on est en train de le développer. Oui, mais indépendamment du développement, le candidat peut travailler avec le gouvernement pour aborder cette préoccupation spécifique. Kurt dit, Carole va se mettre debout pour lire des questions des participants à distance. La première question de Yenning Scar, qui dit, pendant la session des nouveaux GTLD d'hier, on a
publier une ligne de temps le 15 mai 2013 comme date d'ouverture et la date de clôture le 30 mai de la même année. C'est un délai pour la résolution des litiges pour des chaînes de caractère. Qu'est-ce que ça veut dire, ce délai? C'est pour les enchères? Chang répond, les litiges pour les chaînes de caractère sont le dernier pas dans le processus d'évaluation de candidature. Lorsque la candidature passe toute l'évaluation, elle arrive à l'étape de résolution des litiges par chaîne de caractère. La date la plus proche a trait à ce qui suit. La candidature doit avoir passé toute l'évaluation avant. Voilà, c'est la première date possible par rapport aux étapes de litige pour chaîne de caractère. Et la dernière date, c'est dans les cas où les candidats passent par une évaluation élargie. Nous avons la candidature A et B. La candidature A finit toute son évaluation sans objection, sans problème, et elle est prête pour la délégation. La candidature B ne réussit pas à l'évaluation initiale, elle doit passer à l'évaluation élargie. La candidature A doit attendre à ce que la candidature B complète l'évaluation élargie. Et si la candidature B réussit à l'évaluation élargie, alors toutes les deux pourront passer à l'étape de résolution des litiges par chaîne de caractère. Voilà pourquoi vous voyez deux dates différentes. C'est Kurt qui parle. Ceci peut être confus parce que vous pensez à la date du 15 mai pour la résolution des litiges. Mais cette date est pour les candidats qui ont dû passer par l'évaluation élargie. Dan Halloran, du staff de l'ICANN. Je veux répéter ce qui suit. Vous ne devez pas viser au 15 mai 2013 en ce moment. Ça, c'est une date estimée. Kurt parle, oui, notamment parce que la résolution des objections dépend en partie des candidats et de l'objecteur. Une autre question à distance, la deuxième question du même participant. Quand est-ce qu'on va fournir ou choisir le fournisseur chargé des enchères et quand est-ce que nous pourrons voir les règles définitives pour les enchères? Kurt répond, je crois que les règles concernant les enchères sont incluses dans le module 4. Elles sont assez détaillées. Nous devons encore toujours publier une candidature, une proposition pour avoir un fournisseur chargé de ce service de vente aux enchères. Anthony prend la parole. Anthony Van Covering, je veux poser une question par rapport au système TAS pour la candidature des TLD. Je comprends le raisonnement. Vous avez dit qu'il va y avoir un seul évaluateur pour évaluer toutes les candidatures. C'est correct, ça? C'est-à-dire, la candidature ne va pas être divisée en parties avec des évaluations séparées. C'est correct, ce que j'ai compris? Au fur et à mesure que nous commençons à travailler dans la candidature, nous avons un programme de travail. Alors, le défi, c'est de transformer tout ce processus de travail et mettre toutes ces informations dans les petits champs que nous avons vus, du champ 1 au champ 50. S'il y a un seul évaluateur, pourquoi on ne peut pas, on présente tout dans un document en PDF et pas le système TAS. L'idée, c'est que les évaluateurs soient cohérents pour évaluer les candidatures. Si nous recevons des PDF, ils vont être différents d'une évaluation à une autre. En plus de cela, dans certains cas, il doit y avoir des questions. Les évaluateurs doivent voir les questions. Et c'est la même série d'une candidature à une autre où on va les grouper. C'est-à-dire qu'il y a une équipe d'évaluation chargée de la partie financière et opérationnelle, mais parce que ces deux secteurs sont très liés, mais on vise à établir un format standard pour que les évaluateurs puissent travailler. Anthony Vancouver dit, je veux reprendre ma question. Ceci augmente la charge de travail pour les candidats. L'un des sujets en particulier sur les documents joints est bien plus facile de faire un exemple ou de montrer ce que l'on fait dans une figure, dans une table, etc. Même si dans la vidéo, on dit qu'il y a des questions qui exige de joindre des documents. Ce n'est pas clair pour moi s'il y a des questions qui vont nécessiter des documents joints, même si cela n'était pas obligatoire. Chuck répond, je crois que les questions 22 à 50 ont besoin justement de pièces jointes. Et il y a certaines questions où, tout spécifiquement, il faut absolument joindre les documents. Et on ne peut pas répondre à ces questions jusqu'à ce que les documents aient été présentés. Vous aurez la possibilité de télécharger ces documents joints, sauf que vous ne devrez pas pensez qu'avec les pièces jointes, vous allez compléter l'information requise. Ce n'est pas nécessairement comme ça. Tout simplement, c'est une exigence du guide de candidature. Qu'en pensez-vous? Ça a du sens? Anthony répond, eh bien, non, ça n'a pas beaucoup de sens. Si l'on veut démontrer quelque chose par une information en pièce jointe, pourquoi ne pas considérer cette information en pièce jointe? Les évaluateurs vont lire toute l'évaluation jointe, mais le justificatif des décisions des évaluateurs est basé sur le texte qui est inclus dans les champs principaux de la candidature. De toute manière, les évaluateurs vont lire les pièces jointes. Anthony répond, je crois qu'en réalité, ce serait plus sensé du point de vue opérationnel. Finalement, vous allez nous dire exactement comment identifier les documents joints, les pièces jointes? Qu'est-ce que je fais? Je fais une numérotation, je mets pièce jointe A qui correspond à la question X. Ça va se passer comment? On a besoin d'identifier les pièces jointes. L'une des recommandations, c'est justement que vous mettiez un titre correct aux pièces jointes et vous avez des références spécifiques en ligne. Alors là, on peut donner la recommandation sur la manière d'identifier les documents joints. Anthony, remercie de la réponse. Ce serait une grande aide pour tout le monde. Chuck Gomez, de VeriSign, pose la question suivante. Deux questions plutôt. La première qui a trait au TAS dans le profil de l'utilisateur que nous avons vu dans la vidéo et que nous voyons en ligne également. Nous voyons ce qui suit. C'est un profil du candidat ou de la personne physique qui envoie les données. C'est un seul et c'est la même chose. Donc, Chuck répond. Est-il possible qu'un candidat ait beaucoup de personnes physiques saisissant les données dans le système TAS pour la même candidature? Trank répond aux effets de la sécurité. Nous avons un profil d'utilisateur par compte ou par candidature. Et si l'organisme A a 10 personnes qui veulent répondre à différentes questions, une question se... Une personne répond à une question, une autre personne répond à une autre question. Notre recommandation est d'organiser toutes les réponses au préalable et puis après qu'une seule personne saisisse toute l'information. Et que se passe-t-il si cette personne ne peut pas travailler, par exemple, si cette personne a un problème? Tran répond. Nous avons une personne de contact secondaire qui s'occupera de gérer le compte et le profil de d'utilisateurs. Chaque répond. Compte tenu de la quantité de données qu'il faut saisir pour la candidature, je ne vois pas intelligent de limiter cela à une seule personne pouvant s'occuper de saisir toutes les données. Je crois que cela est une grande limitation. En premier lieu, il faut tenir compte que la candidature peut être présentée dans une période de 3 mois. Et définitivement, je peux vous dire d'évaluer cela pour voir d'autres manières de gérer les aspects concernant la sécurité parce que ceci apparaît comme une énorme limitation du point de vue pratique. Trang répond, on est préoccupé par la sécurité et que les identifiants ne passent pas d'une personne à l'autre dans la même société. Bien. Merci beaucoup.
Je me demande, parce que nous avons une boîte de courriel pour les questions, c'est gtld@sican.org. Et donc, je voudrais clarifier et vous rassurer. Peut-être c'est pour ceci. Quand on a 10 questions, il faut les répondre. Il est possible d'avoir un utilisateur lié à plusieurs candidatures. Et donc, c'est l'utilisateur qui a un profil. Ce n'est pas seulement le candidat qui doit y accéder. Alors, une même personne peut entrer de différentes candidatures. Oui, c'est ça. On peut créer un compte d'utilisateur et à partir du compte, créer de différents profils de candidats. Et si chaque profil de candidat peut demander de différents domaines. Voilà, oui, c'est une très bonne information, mais ça ne répond pas à ce que j'avais dit. C'est Chuck Gomez qui parle. La question suivante que j'ai porte sur la sécurité. Certaines questions techniques ont des informations très sensibles et je suppose que ceci va être maintenu en caractère de confidentiel. Mais puisqu'on a de différents acteurs qui vont pouvoir accéder à ces informations, surtout le long du processus d'évaluation et surtout les processus d'évaluation initiale ou élargie, le long du processus de résolution de litiges quant aux chaînes de caractères, il y aura beaucoup de gens qui liront ces informations qui sont sensibles. Est-ce que vous avez considéré des processus de contrôle de documents de quelque sorte qui puissent limiter la quantité de personnes qui voient ceci, parce qu'on a des services qui travaillent comme cela. Est-ce que vous avez considéré de mettre en place des systèmes comme ça pour ceci? Je crois que ceci pourrait être une option que peut-être un candidat peut payer, que ce soit partiel ou totalement, s'il est concerné. Oui, bien sûr, on a traité ce sujet très sérieusement, dit Kurt. Je crois que tu as déjà posé la question à quelqu'un hier. Chuck dit oui, on a présenté une question similaire, plus détaillée. Kurt dit oui, j'ai vu aujourd'hui sur ma boîte de courriel qu'on parlait des protocoles de sécurité, quelle information on recevait et quel était le développement de ceci. On n'a pas développé ces systèmes pour élaborer ces dispositions une fois que les évaluations sont finies. Bien sûr, on travaille sur cela. Et on a une autre question, et c'est sur le type d'information que l'ICANN va considérer confidentielle. Je ne demandais pas de questions à ce sujet. Je sais qu'il y a des questions qui sont compliquées, dit Chuck, mais il me semblait que ce serait utile pour que d'autres personnes considèrent ceci s'ils n'ont pas vu les questions présentées à distance. Trank prend la parole. Bon, le TAS a une grande caractéristique de sécurité. C'est une très bonne fonction qu'on a inclue au TAS. Et donc, ceci nous laisse accéder à toutes les parties de la candidature pour faire le travail. Ce n'est pas le travail des évaluateurs. Kurt prend la parole. Bien sûr, je ne prendrai pas le feedback si je déménagerai, mais bon, ça ne fonctionne pas. Je suis Elliot North. Ce qui me préoccupe sont les dates du 15 mai, 30 mai 2013, particulièrement Cardi. Bon, non, je m'occuperai d'ici. Elliot dit merci parce qu'il y a des chaînes de caractères qui vont être objectées. Je ne sais pas, ce seront peut-être 50, mais où on aura des controverses par rapport aux chaînes de caractères à partir du processus d'évaluation. Considérons qu'on aura 50, par exemple. C'est peut-être une spéculation, mais il me semble que probablement il s'agira des chaînes les plus génériques qui vont tenir à ce processus de résolution de litige. Supposons que 40 ou 45 des 50 candidatures ne vont pas être controversées. Et donc, on n'aura pas d'objection entre l'évaluation en novembre et les surenchères en mai. Et donc, si les autres 5 mois de la période sont inclus, je crois que on a augmenté la valeur pour les personnes qui veulent mettre en place ce système à partir de candidatures spéculatives. Et donc, je crois qu'il pourrait y avoir deux processus de surenchère simultanés parce que on pourrait considérer que s'il n'y a pas d'objection, on aura des surenchères et que s'il y avait des objections, il va y avoir une surenchère. Alors, ce qui se passe dans la dernière partie des surenchères est que pour les candidatures ayant eu des objections, constitue une petite chaîne de caractère. Je crois que vous avez aussi l'avantage de programmer les surenchères, ce qui est très bien. Et je vois que ceci a été mentionné dans cette réunion qui a été télévisée et où il y a eu beaucoup de gens. Du point de vue de la remise du produit, on pourrait y avoir des problèmes parce que peut-être les surenchères vont constituer un produit parce que ceci va être développé sur eBay tous les jours. Cœur dit, oui, je crois que vous avez bien raison, les surenchères vont être dès que possible. Alors, les parties prenantes vont avoir un espace pour résoudre le litige et la communauté va pouvoir le faire aussi. Et si les deux candidatures ont dépassé la première étape, le litige doit être résolu rapidement et on devrait voir quels sont les pairs controversés. Elliot dit, je suggère que la communication n'est pas claire à ce sujet. D'accord, je suis Jim Prendergast. Le guide dit que les candidatures doivent être présentées et qu'elles sont publiées plutôt le 26 avril. Maintenant, vous parlez du 1er mai. Je voudrais savoir quel est le jour où je dois me réveiller pour voir les publications. Trang dit, bon, les candidatures sont appliquées pour les chaînes de caractères et elles vont être publiées 2 semaines après la fin de la période des candidatures. Alors, le 1er mai, oui, plus ou moins. Alors maintenant, par rapport aux évaluateurs indépendants et leurs questions potentielles, est-ce qu'ils vont se communiquer avec les candidats par email ou par téléphone ou seulement électroniquement? Trang dit, bon, le processus de clarification va être fait à travers le TAS. On va réunir toutes les questions que les évaluateurs puissent avoir par rapport à une candidature et on va les lui envoyer toutes ensemble. Pour ce qui rapporte aux finances ou des questions techniques vont être incluses dans un autre lot. C'est-à-dire qu'on va séparer les questions par sujet et le candidat aura 2 semaines pour répondre aux clarifications demandées par le panel évaluateur, mais vous allez être notifié par l'existence de ces questions. Alors, vous pouvez accéder au TAS et le voir. Le long du processus, il n'y a pas de disposition pour que le candidat et l'évaluateur se communiquent pendant la période de clarification. Mais nous recommandons que si un candidat reçoit des questions de clarification et il ne les comprend pas, on lui demande de faire savoir au panel d'évaluateurs comment il interprète ces questions et qu'il fournisse une réponse à partir de son interprétation de la question. Alors, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un ne comprend pas bien la question? Bon, bien sûr, dit Trang, on ne va pas le prendre en compte. Les questions de clarification vont passer par au moins un processus de révision pour être sûr qu'elle est claire et qu'elle est censée avant de passer au candidat. Voilà sur ce que nous travaillons. Mais en ce moment, il n'y a pas de disposition pour avoir des communications entre les candidats et les panels. Kurt dit, bon, en réalité, ce qu'on a pensé à ce sujet, que la candidature est transmise par écrit. Et en deuxième lieu, en milieu de l'évaluation initiale, nous avons une étape et puis une autre après l'évaluation élargie. Donc, on a plusieurs reprises pour répéter cette évaluation et ce processus. Et si on considère la quantité de candidatures que nous devons traiter efficacement, aussi efficacement que possible, si nous maintenons des réunions pour des candidatures, ceci augmentera les délais et les frais aussi. Mais notre hypothèse est que tout ce processus va encourager. C'est-à-dire, le guide de candidature est censé être un guide d'opération d'un tel et vous fournir des informations pour que votre candidature soit acceptée. Donc, nous supposons que les candidats vont être intelligents et vont bien faire leur candidature. Et les évaluateurs vont devoir interpréter les candidatures. On ne veut pas faire que ce processus soit plus compliqué parce que ceci augmente les délais et les frais. Je comprends votre préoccupation et ceci a été très difficile. Jim Prendergast dit, bon, dès que l'on a reçu une objection, alors le guide dit que le DSRP aura une période et que ceci pourrait être publié sur leur site web. Lorsque la demande est envoyée au candidat, quand est-ce que ceci sera fait? Pendant les 30 jours où le candidat devra répondre ou alors lorsqu'il y a eu une objection? Bon, cette question est trop longue pour la répondre en ce moment, alors je vais prendre note et la publier sur le site web, dit Dan. Trang dit, par rapport au moment où le candidat va recevoir la notification de l'objection, bon, la notification va lui être remise à travers le TAS. Anthony Vancouvering dit, oui, ce qui me surprend est la différence entre la considération que vous avez mis sur la charge du travail pour les membres d'évaluation de l'ICANN et le manque de considération de la charge de travail pour le candidat. Alors, nous considérons que si lorsqu'on répond les questions ou lorsqu'on évalue les candidatures, chaque personne traitait un utilisateur pour des questions de sécurité. Le guide de candidature est très complexe et j'ai déjà expliqué cela à plein de personnes. Et je crois, Kurt, que tu as aussi entendu parler de ceci. C'est compliqué. C'est pour cela qu'on maintient ces séances. Alors, ce que vous demandez est qu'une personne complète tout le guide de candidature. Et nous, qui représentons des clients, vous nous demandez de le faire pour de multiples clients. Donc, il me semble bien qu'une seule personne puisse présenter plusieurs candidatures. Je voudrais connaître ce Superman qui pourrait le faire, parce que vous devez permettre que plus d'une personne le fasse. Surtout, je parle pour certains d'entre nous qui avons des clients dans des régions vastes, parce qu'on doit avoir une personne assis en stand-by jusqu'à ce qu'elle ait une autre candidature à présenter. Je crois que vous devrez reconsidérer cela. Je crois que vous pourrez trouver une manière de traiter ces problèmes de sécurité parce que, par exemple, on pourrait avoir une sécurité selon l'IP. Vous pouvez avoir plus d'une IP. VeriSign l'a fait, par exemple, et on doit pouvoir faire ceci tant que bureau d'enregistrement. On doit pouvoir communiquer à travers une IP sûre. Et la charge sur les candidats va être très, très lourde. Et quand on dit oui, ton commentaire va être considéré. Mais je crois qu'un point important par rapport au reste de ce que tu as dit est que notre but principal est d'avoir une évaluation faite dans une période de temps et qu'elle soit uniforme pour que les résultats soient prédictibles. Donc, on veut que la tâche des évaluateurs soit aussi simple que possible parce qu'ils doivent se concentrer au contenu et pouvoir évaluer les candidatures uniformément. Anthony dit, oui, on devrait dire tout ceci aux candidats. On a les mêmes problèmes que vous. On doit compléter plein de candidatures pour nos clients. Et qu'est-ce qui se passerait si on a une seule personne pour faire tout cela? Qu'est-ce qui se passe si un membre du panel devrait faire cela? Quand on dit non, 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 je dis que voilà la partie du commentaire dont nous prenons compte. Puis, comme la question de Jim disait, on a beaucoup travaillé pour que le processus d'évaluation soit cohérent parce qu'on a là un des risques. C'est-à-dire que toutes les évaluations soient évaluées de façon cohérente. Carole dit que je veux te dire qu'on n'a que 10-15 minutes de plus. Je vais lire deux questions de plus, mais je demande aux gens d'être aussi brefs que possible dans leurs questions. La prochaine question dit, est-ce que les noms des pays sont bloqués dans toutes les langues ou alors seulement dans les 6 langues des Nations Unies? Qui a dit non, les noms de pays ne vont pas être délégués en aucune langue ou aucune traduction. Merci, dit Carole. La prochaine suivante est de David Cohen qui dit il demande s'il peut recevoir de différentes candidatures pour un TLD qui peuvent être confuses par rapport à un GTLD, un IDN ou un EGN. Et il voudrait savoir si on pourrait clarifier si au lieu des GTLD qui existent déjà et qui fonctionnent déjà, si on a une opportunité valide pour obtenir la chaîne de caractères qui pourrait s'appliquer par le bureau d'enregistrement qui a déjà un GTLD existant qui opère, ou si c'est comme qu'une chaîne ne peut être déléguée qu'à un bureau d'enregistrement existant. Bon, dit Kurt, on va évaluer les chaînes de caractères selon leur similarité visuelle, leur similitude visuelle, telle que partie du processus d'évaluation. Mais alors, d'autres ne peuvent pas faire d'objection à une chaîne de caractères qui serait si similaire qu'elle génère une confusion pour l'utilisateur. Alors, le problème sera si la translittération pourrait présenter une confusion à l'utilisateur. On n'a pas de rapport ici avec le candidat. Ceci est pareil. Ça n'importe pas. Ernesto dit, bon, pour être transparent et ouvert, et c'est quelque chose qu'on apprécie tous ceux qui sommes ici à pression. Est-ce que l'ICANN a des intentions de donner une période pour essayer le TAS dès que possible? Si ceci n'est pas possible, je voudrais savoir comment ça se passe ou si vous êtes prêt à résoudre des problèmes dans des temps d'arrêt. Bon, on est en train de mener des preuves internes sur le TAS. Alors, je remercie ton commentaire, mais au fait, l'idée d'ouvrir la fenêtre de candidature pendant 3 mois vous permet d'entrer et de les informations sur la candidature sur TAS et on peut vraiment voir la candidature qu'on fait au fur et à mesure. Bernardine, je veux voir si j'ai bien compris. Alors, ce n'est que pendant la fenêtre de candidature que nous allons savoir quel est le format des questions, etc. Comment peut être la réponse? On ne va pas pouvoir voir ceci avant cela, dit Werner. Trump répond, bon, on a des mots sur le site web et on montre comment vont être les écrans parce qu'elles vont être exactement pareilles. Bernard dit, j'ai été privilégié d'avoir participé au processus de l'ICANN à travers les forums sur Internet et je crois que ceci a été très bon. C'était très bon d'envoyer des documents de Word, par exemple. Mais je ne vois quand même pas pourquoi le monde extérieur, sauf pour les candidats qui payent 5 000 $, devrait voir tout cela. Et peut-être qu'on a ici la meilleure promotion possible, mais je ne suis pas d'accord. Je crois qu'on devrait essayer ceci dès que possible, parce que l'évaluation interne, bien sûr, aura ses limites. Et je pense qu'on aurait ici une bonne opportunité.
On parle d'Anne Halloran du staff de l'ICANN, je crois. Merci de votre question avant tout. Je crois que cette question est liée à la demande d'une version bêta publique pour que tout le monde puisse voir comment ça marche sans présenter les candidatures. Je vous remercie de votre question. Nous allons y répondre sur notre site web et nous qui sommes à la charge de la sécurité, nous parlerons avec les responsables pour voir quel est leur point de vue sur le fait que de multiples utilisateurs travaillent dans un seul compte d'utilisateurs. Ces questions sont très bien. On peut avoir de bonnes idées à partir de vos questions, hein, et on les prend très au sérieux. Merci beaucoup. Werner parle. Un collègue me dit que, justement, on ne veut pas être la population à la charge du testing de la version bêta, justement, au moment où il faut présenter la candidature. On veut le faire avant. Brett Fawcett a la parole. Ceci a trait à la dernière séance et c'est lié au sujet à résoudre, par exemple, la sélection des registres d'urgence pour back-end. Actuellement, je vois que probablement on va en choisir deux. Une meilleure méthodologie, ce serait de voir quels sont les standards minimaux pour sélectionner le personnel et puis sélectionner tous les candidats qui respectent ces standards. Je crois que tous ceux ayant respecté un standard minimum, eh bien, ça va leur donner une base plus diversifiée en termes de coûts et aussi des talents de chacun des candidats. Code Pit répond. Oui, Dan et moi, on a parlé à propos de ce sujet pendant la séance précédente. C'est une bonne suggestion, mais il est probable que l'on puisse avoir moins de devereaux au lieu d'accepter tout le monde. Je ne sais pas, mais c'est une bonne suggestion. J'appartiens au point ER. Vous pouvez me donner plus de détails, par exemple, quelles sont les personnes ou les entités juridiques qui peuvent être définies comme communauté. Et puis, existe-t-il des critères voulant dire que cette candidature en particulier doit être présentée comme une candidature basée sur la communauté pour un tel dé? Kurt répond, la seule occasion où la désignation d'une candidature comme basée sur la communauté entre en jeu, c'est lorsqu'il y a un litige entre chaînes de caractères qui demandent la même étiquette, le même nom. Ce litige peut être seul, c'est-à-dire on peut trouver solution si le candidat est basé sur la communauté. Tout d'abord, je veux établir la différence. C'est la seule instance où l'OPUS présentait une candidature basée sur la communauté. Si vous avez signé un accord avec l'ICANN, tous ces GTLD basés sur la communauté auront des restrictions de registre suivant ce qui a été signé dans l'accord. Tout cela est bien défini dans le guide de candidature. Là, il y a 4 critères ou ensemble de critères plutôt pour déterminer si une candidature est basée sur la communauté ou pas. Soit un lien entre le nom proposé et la communauté, par exemple. Si c'est le nom exact de la communauté, aussi si cela représente la communauté établie. Un autre critère encore, c'est de voir si la communauté supporte la candidature pour ce TLD. Et quatrièmement, si vous, en tant que promoteur de TLD basé sur la communauté, vous spécifiez des politiques de restriction ou d'enregistrement. Chacun de ces critères a des sous-catégories. Ils sont tous inclus dans le guide de candidature. Vous devez les avoir lus sans doute, mais si vous avez des questions spécifiques là-dessus, on les répondra avec plaisir. Vous pourrez les présenter dans notre forum de questions. Trang a dit que pendant le processus de candidature, la désignation de candidature basée sur la communauté reste à la discrétion du candidat. Je veux poser une question sur les questions financières qui ont été présentées hier. Certains pays anticipent qu'ils vont avoir des problèmes avec les contrats, par exemple, ou avec la documentation. Vous aurez une personne qui va s'occuper de coordonner tout ce travail concernant la documentation. Kurt répond, oui, c'est un excellent forum. Et cette question est très importante. Vous devrez la mettre par écrit parce qu'il faudra une résolution avant de pouvoir vous répondre. Je voudrais une clarification, dit Ray. Je ne suis pas sûre si l'aspect communautaire est présenté face à un litige. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais si vous indiquez le cadre, la petite fenêtre là qui a à voir avec la candidature, vous êtes sujet aux conditions contractuelles pour une communauté. Oui, ces restrictions seront dans chacun des accords respectifs. Jim dit, je veux reprendre ce que Werner a dit. Lorsque vous ferez le test de la version, voyez ce qui va se passer dans 3 ou 4 ans. Par exemple, lorsque le département de commerce des États-Unis qui a mis en place un programme version bêta qui lui a coûté des millions de dollars et qui a été vraiment un échec formidable. Je vais voir qui a été le responsable de cela, parce que si c'est l'un de vos évaluateurs pour votre système, alors là, vous avez quelque chose à apprendre. Hein. Peut-être voudrez-vous le savoir à l'avance. Kurt répond, c'est l'une des préoccupations d'avoir un environnement de test pour une communauté, parce que si cela avait impliqué un échec, l'impact sur la réputation de l'ICANN aurait été significatif. Regardez ce qui peut se passer s'il y a un environnement de test qui n'a pas la résistance ou la flexibilité suffisante. Encore deux questions. Carole, je dois dire qu'il n'y a plus de questions en ligne. Je suggère donc de les envoyer au lien des nouveaux GTLD pour que vous puissiez les répondre. Cette question est présentée par Mary. Je vous prie de clarifier si j'ai bien compris. Le registre probable d'un nouveau GTLD doit élaborer son propre accord avec les bureaux d'enregistrement de l'ICANN. La seule limitation, c'est d'inclure dans les termes spécifiques de l'ICANN ou bien on pourrait utiliser un accord standard. C'est ça la question. Kurt répond et Dan va répondre à la question. Chaque registre doit faire son propre accord entre registre et bureau d'enregistrement. Nous ne spécifions pas cela pour tous les TLD possibles. Pourtant, il y a une disposition qui établit qu'une fois que le registre a fait son accord à passer son accord avec le bureau d'enregistrement, tous les changements postérieurs doivent être approuvés par l'ICANN. Mais au début, chaque registre fait son propre accord qui doit être attrayant pour les bureaux d'enregistrement. Dan, ne t'en va pas. Une autre question, si le registre veut enregistrer des domaines pour utilisation interne seulement, il doit devenir un bureau d'enregistrement enregistré par l'ICANN et payé deux fois comme registrant et bureau d'enregistrement. Dan répond, chaque enregistrement doit passer à travers un bureau d'enregistrement comme le résultat de débats menés auparavant dans des circonstances. Le bureau d'enregistrement peut être affilié avec un registre. Mais Kurt ajoute, la réponse est la suivante. Si vous voulez être un bureau d'enregistrement enregistré par l'ICANN ou accrédité par l'ICANN, vous devez passer le processus standard de l'ICANN, même si vous êtes déjà un registre. Kurt demande si on a le temps pour deux questions de plus. Alors, je veux poser une question par rapport au GTLD géographique. Vous avez besoin de 60 % de soutien gouvernemental. Comment pouvons-nous faire pour bloquer ces noms de domaine? Qu'est-il préférable, le 60 % ou un blocage massif? Kurt répond, voici une excellente question qui va préciser d'une plus grande considération suivant le guide de candidature pour pouvoir avoir un tel régional suivant ce qui est défini sur la liste. Vous avez besoin de 60 % de soutien des pays et pas plus d'un pays qui présente une objection. Apparemment, vous devriez travailler avec un organisme qui encourage ses États membres à ce que, de manière individuelle, ils soutiennent cette candidature. Mais je sais bien que dans cette réunion, on a beaucoup débattu le point Afrique et la manière dont notre organisation peut donner son soutien. On est en train de le considérer. En ce moment, je répète tout simplement le contenu du guide de candidature et je vous prie de présenter la question par écrit pour qu'on puisse mieux la considérer. Kurt, je viens de Pointe-Québec au Canada. Il y a deux langues officielles, l'anglais et le français. Nous présentons donc la demande pour Pointe-Québec. Qu'est-ce que nous faisons? Nous présentons deux, ou une version IDN et l'autre code ASCII. Alors, que se passe-t-il si on a la même demande pour le même IDN présenté par le même candidat? Kurt répond, alors, vous voulez présenter deux fois. Le participant répond, eh oui, nous avons deux langues officielles, nous, au Canada. Il faut présenter une candidature avec en anglais et une autre en français avec le code ASCII. Et Kurt dit, il va y avoir une délégation de TLD pour chaque candidature. Chaque candidature va être considérée séparément. Chaque candidature doit passer toutes les étapes de révision, la similitude entre chaînes de caractères, etc. Mais c'est toujours le même candidat. De toute manière, il doit présenter deux candidatures. Le participant continue. Alors, dans le registre de la base de données, qu'est-ce qu'on fait? On donne à notre client le deuxième niveau en IDN et la même chose pour le code ASCII. Que faisons-nous pour tout pour le domaine en définitive? Kurt répond. Vous avez présenté des questions complexes. Et j'essayais de vous contacter auparavant. Kurt répond, très bien, ce qui est bien ici, c'est justement que nous avons maintenant cette boîte de courriel et vous pouvez m'envoyer votre question dans cette boîte. Et ce que vous présentez des questions complexes, que ce soit le mot Québec sans accent ou avec accent et différentes variantes, et le participant dit, ce n'est pas la même chose. Quand vous remplissez un formulaire, apparemment, ce n'est pas important si vous le faites en anglais ou en français. C'est correct. Et cela arrive aussi dans des pays qui ont différents codes d'écriture. Le participant dit, il s'agit d'un seul TLD. C'est comme ça que ça fonctionne. Et Kurt dit, ceci n'a rien à voir avec le DNS parce que le DNS délègue des noms et les noms sont séparés. Et nous, on doit gérer cela conjointement. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est un sujet complexe par rapport au fonctionnement du système des noms de domaine. Je ne peux pas vous répondre à votre question parce qu'il y a des questions liées à des problèmes techniques du système de noms de domaine pour faire ces délégations afin que les utilisateurs ne se confondent pas et que le DNS permette comme il le doit. Le participant ajoute, alors donc, il faut commencer à travailler là-dessus. Et oui, il faut. Merci. Très bien. Alors, je réitère, je vous remercie encore une fois d'être venu ici et d'avoir participé de cette session. Merci beaucoup.